Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr, comme l'écouter sur les ondes en 107.5 FM. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aurélie Morin. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes de la compagnie de la nuit, c'est ça ?
Le théâtre de nuit, oui.
Le théâtre de nuit. Et donc, actuellement, vous êtes en résidence au théâtre Les Airs de Die. Et vous êtes là pour travailler sur un nouveau spectacle ?
Oui, on est en résidence depuis 2 semaines et demie et on travaille sur la création de Celle qui regarde le monde, qui est une pièce qui s'adresse essentiellement ou en priorité aux adolescents à partir de 11 ans et qui prend racine dans la pièce d'Alexandra Badea qui s'intitule Celle qui regarde le monde également. Et c'est une pièce de théâtre qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est interviewée par un commissaire et qui a tenté d'aider un jeune réfugié à traverser une frontière. Et donc il y a deux séries de dialogues qui s'alternent, des dialogues entre Déa et le commissaire et des dialogues entre Déa et Ennis, qui est le jeune homme en question. Et donc durant toute la pièce, on découvre tous les indices qui nous permettent de comprendre le geste de Déa. Et c'est la volonté première du commissaire de comprendre le geste d'enfreindre une loi, en fait, et que ça re-questionne la posture par rapport aux lois, par rapport au monde. Et donc c'est toute l'interprétation autour de ce personnage, de la jeune fille qu'on met en lumière et en ombre. C'est un spectacle d'ombre et de lumière avant tout. Au sein de laquelle le texte est une matière comme les autres matières de la pièce, donc il y a une partie art plastique, une partie visuelle, et tout se mêle pour créer un environnement à l'intérieur duquel les comédiens vont évoluer et faire partie de cet environnement comme.
Ce spectacle est composé de combien de comédiens sur le plateau ? Et puis vous êtes une équipe, je suppose. On va parler de l'association Théâtre de Nuit. Elle a débuté en quelle année ?
La compagnie, elle a été créée en 2004, à l'issue d'une première création, Petite Migration. Puis beaucoup d'autres spectacles ont vu le jour depuis. On est une équipe en fait de plasticiens, de danseurs, de marionnettistes, de régisseurs, d'administrateurs, Donc quand on travaille, on est une dizaine de personnes. C'est une forme légère là sur laquelle on travaille. Des fois, on a des formes plus imposantes sur les plateaux, mais là, l'envie, c'était aussi d'aller à la rencontre des publics dans des salles qui sont pas nécessairement équipées comme des théâtres. Et c'était ça qui nous plaisait, c'était l'idée d'aller à la rencontre, des jeunes dans le cadre de décentralisation. Sur cette forme légère, on est un peu moins que quand on travaille sur des formes plus lourdes. On est une dizaine de personnes, on va dire, dans la compagnie, à œuvrer autour de la sortie de ce spectacle. Voilà, qui est un peu perturbé avec les événements, mais qui verra le jour de toute façon. Et c'est la chance qu'on a eue d'avoir la résidence aussi à Die, c'était de pouvoir quand même avoir la sensation de boucler notre travail, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc c'était vraiment super pour nous de pouvoir travailler ici.
Ce spectacle, et du moins cette création, est soutenue par divers organismes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à cause de ce Covid-19 ?
Ça a créé une atmosphère assez étrange pendant toute la période qui a précédé l'annonce en fait du reconfinement. Ça nous a beaucoup perturbés dans le travail. En tout cas, c'était compliqué pour l'équipe, en tout cas, de se reconcentrer autour de nos objectifs. Mais on s'est rassemblés autour de ce qu'on avait à faire et on est plutôt contents de ce qu'on a pu quand même réaliser dans ce contexte.
Je reviens à ce spectacle donc qui s'intitule
Celle qui regarde le monde.
Voilà, Celle qui regarde le monde, et donc c'est vous parlez d'une entrevue ou d'un interrogatoire par un commissaire auprès d'une jeune femme. L'intrigue est de savoir si finalement il comprendra son action. Et qu'en fera-t-il? Ça, c'est peut-être le secret du spectacle.
En tout cas, ce qui est important, c'est de montrer deux personnages qui ne sont pas des stéréotypes. Ce n'est pas une adolescente révoltée. C'est aussi une autre facette en fait du personnage qui est révélé en fait pendant la pièce, qui montre une personne en fait qui se questionne sur un positionnement plus large en fait dans le monde, et quelle est sa place dans le monde et quelle est la place du rêve dans le monde aussi, et quelles sont les ficelles de ceux qui décident et comment ça peut agir sur nos vies et nos choix. Et le commissaire, en réponse à ça, il est aussi très nuancé, en fait. Et on a, au fil de la pièce, une évolution de son point de vue grâce à toutes les images que nous livre Déa.
Cette représentation qu'est le commissaire, c'est en quelque sorte un élément de pouvoir sur lequel il est assujetti et auprès duquel il opère. Est-ce que il y a un aspect positif justement de cette tentative de compréhension du pouvoir sur un acte justement qui se révèle hors des sentiers battus?
Mais oui, mais c'est en fait tout est un peu lisible entre les lignes. C'est-à-dire que on perçoit en fait toutes les facettes du personnage parce que on le voit être colonisé finalement par les impressions, les questionnements de Déa. Donc en fait on voit que lui-même il est perturbé finalement par tout ce qu'il entend de la bouche de Déa. Et donc ça amène une ouverture sur une idée plus radicale du pouvoir. En fait, on n'est pas dans un manichéisme bon mauvais, c'est plus nuancé que ça, et c'est ça qui est vraiment beau dans la pièce.
Une note d'optimisme en quelque sorte.
Oui, oui, bien sûr. Après, on a quand même toute la réalité du personnage d'Ennis qui est révélée pendant le spectacle. Donc, ça reste des sujets, sensibles. Mais en tout cas, à la fin, on n'est pas enfermé. On est sur une idée quand même d'ouvrir. Il y a un espoir d'ouvrir les frontières, de... On est sur un rêve, peut-être pas une utopie, mais un grand rêve d'ouvrir les frontières et de se reposer un petit peu les questions sur comment on peut échanger et faire circuler les gens librement. Pour que les échanges culturels puissent se faire,
Cette pièce, donc, les comédiens qu'on pourrait présenter sont...
Alors, je travaille avec Arnaud Delicata, qui est un marionnettiste que j'ai rencontré à l'ESNAM, qui est une école qui nous transmet les multiples facettes des arts de la marionnette. C'est très basé aussi sur les arts visuels. Et puis, je travaille avec Caroline Demourgue, qui est une marionnettiste qui travaille aussi avec une compagnie drômoise. qui s'appelle Haut les mains, et qui donc interprète le personnage de Déa. Arnaud, lui, interprète les personnages du commissaire et de Enis. Il donne la voix à Enis, qui est une marionnette. Enis est une marionnette dans le spectacle, une marionnette à taille humaine, qui apparaît en ombre aussi. Et puis on a aussi les régisseurs, donc régisseur vidéo Salomé Laloubar, régisseur son et lumière Aurélien Bélier, administratrice Géraldine Cousin, assistante de production Stéphanie Roche, des plasticiennes aussi Élise Gascoin, Julia Kovacs qui réalise toute la partie visuelle et plastique avec moi. Et j'oublie aussi le constructeur Bertrand Boulanger qui a réalisé le Castelet. Et je m'excuse si j'oublie des noms parce que j'ai le soleil dans les yeux et ça me brouille la mémoire.
Le registre qui est souvent utilisé dans le théâtre de nuit est de quel ordre ? Est-ce que c'est
poétique.
Plus de la création contemporaine avec des écrivains d'aujourd'hui,
oui.
Ou alors oui.
Alexandra Badea, c'est une auteure contemporaine. Le théâtre d'ombre, c'est un art qui traverse le temps. Ça existe depuis que l'homme est sur la terre. Donc c'est un art qui s'adapte à son temps, même si parfois ça pourrait paraître un peu désuet par rapport à d'autres formes d'images. Mais je dirais que voilà, dans le spectacle, il y a un petit peu de vidéo aussi et j'essaye de trouver en fait un ensemble cohérent en fait, entre tous ces différents éléments. Pour que ça puisse être au service d'un propos qui nous intéresse aujourd'hui.
Ce sont des écrits qui pourraient être plutôt intemporels. Ça pourrait être retranscrit dans n'importe quelle époque ou de civilisation.
Non, je ne crois pas. Celle qui regarde le monde, c'est une pièce qui prend racine dans des questionnements contemporains, vraiment d'aujourd'hui. Les acteurs ont un langage quotidien. On n'est pas dans un langage très littéraire, mais ça peut pas se déplacer dans le temps.
Donc vous avez cité cet auteur, il y a d'autres écrivains ou d'autres pièces que vous avez créées justement avec des écrivains d'aujourd'hui ?
Alors non, les pièces qui ont pris racine dans des textes, c'était des auteurs qui sont décédés, Jules Supervielle et Maurice Maeterlinck, et puis il y a un poète aussi dont j'aime beaucoup le travail, Jean-Luc Parent, qui est très inspirant en fait pour le travail. On n'a jamais vraiment interprété ses textes sur le plateau, mais des fois on emprunte en fait des citations ou des bribes de son travail pour faire apparaître ses mots de manière plastique plutôt. Donc des mots projetés, des mots grattés, des mots peints, écrits. Dessiné, voilà.
Lui-même étant artiste plasticien également, compose des espèces d'animaux,
oui.
Un peu, comment dire, primitifs, je dirais.
Moi, j'aime beaucoup son travail et par rapport au théâtre d'ombre, ça se marie très, très bien, en fait, le travail de cet artiste plasticien avec le travail de lumière et de recherche graphique autour d'un dessin très simple, en fait, très sobre, la silhouette, c'est vraiment l'essence de la figure. Et donc, j'aimais bien m'inspirer des dessins de Jean-Luc Parent, en tout cas dans tous les débuts de la compagnie. Puis après, on a trouvé un langage plus propre, mais ça fait partie des artistes qui nous accompagnent.
D'ailleurs, ces textes qui sont sans ponctuation, c'est important ça, cette absence de ponctuation, ou vous avez d'autres textes ?
Non, il y a d'autres textes. Absence de ponctuation, c'est quelque chose que je peux retraduire moi en manipulation, en travail de mouvement, en travail chorégraphique. Comme c'est pas un texte qu'on donne à entendre par des comédiens, on réutilise cet aspect circulaire et infini de ces mots, plus dans la façon dont les images sont données à voir.
Voilà pour l'aspect. Vous êtes installé actuellement à Saillant, c'est ça ?
On est basé à Saillant, oui, depuis le début de la compagnie. Moi, je suis originaire de la Drôme, du côté de mon père, et donc après avoir fait différentes expériences à Bruxelles ou Charleville ou voilà d'autres villes, j'ai souhaité installer la compagnie ici.
Cet aspect professionnel, vous êtes scénographe, metteur en scène, comment peut-on dire ?
Je conçois les projets, je les mets en scène, en images, en mouvement. Je fais les dessins aussi, des silhouettes, je choisis les matières. C'est important pour moi de travailler avec des matériaux différents qui vont participer en fait de l'action, du propos. Voilà. Et puis ensuite, je travaille sur une écriture plateau essentiellement. Donc c'est assez complexe comme démarche parce que j'ai besoin d'être au plateau et à l'atelier en même temps pendant certaines périodes de la création. C'est-à-dire que ça fait comme des vases communicants. On a notre atelier vraiment attenant au plateau et on fait des allers-retours sans arrêt jusqu'aux dernières résidences. Avant de faire des filages et des répétitions, c'est comme ça qu'on travaille, on se déplace avec notre atelier.
Alors, par les temps qui courent, finalement, ce spectacle ne sera pas présenté dans les médias. Qu'est-ce que vous retenez de cette période par rapport au métier de comédien ou de personne de théâtre ?
C'est très multiple comme sentiment. Je dirais que ça perturbe énormément évidemment par rapport au fait qu'on est déjà dans un milieu qui est fragilisé. En même temps, le fait d'avoir du temps, ça peut être éventuellement quelque chose qu'on peut mettre à profit pour les temps de création, mais ça n'enlève pas la frustration de voir nos créations qui restent dans les boîtes et dans les valises. Et c'est très 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 douloureux de devoir renoncer au partage en fait de nos raisons d'être. En fait, pour nous, c'est des raisons d'être au monde, de créer des spectacles. Et là, on ne peut pas partager ça, donc c'est douloureux. Forcément, voilà.
Justement, est-ce que vous mettez aussi de votre personne dans la création d'un spectacle sur les écrits d'un auteur ou d'une auteure en conséquence de ce qui se passe justement avec le Covid, est-ce que ça a ouvert un nouveau regard sur ce qui nous entoure dans cette, comment dire, dans cette mise en abstraction de tous ?
Je crois que j'ai pas suffisamment pris encore de recul par rapport aux événements. J'ai plutôt l'impression d'être encore un peu ballottée dans un entre-deux. Et j'ai pas le recul pour analyser encore l'impact réel. C'est juste pour l'instant assez bouleversant. Et je continue de me concentrer sur ce que j'ai à faire pour pas être trop colonisé en fait par toute cette chose du monde extérieur qui prend des proportions selon mon point de vue qui pour moi sont assez démesurées.
là, votre résidence se termine. Le gouvernement a autorisé la continuité dans la création du théâtre et dans les lieux. Donc, est-ce que pour vous, cela permet de vous consacrer à d'autres choses ou essayer de travailler toujours ce spectacle ailleurs, par exemple ?
Nous, on va en profiter pour faire un travail administratif qu'on n'a parfois pas le temps de faire quand on est en création. On va aussi travailler sur la production du prochain spectacle. Et puis, on a réouvert le travail de celle qui regarde le monde sur des aspects plus musicaux. Donc, on va voilà, profiter de ce temps-là continuer à travailler sur des petites choses, surtout en termes peut-être plastiques et sonores pour celles qui regardent le monde. Mais voilà, on est très près d'avoir une version qui nous plaît. Et donc, à l'issue de cette résidence, on aura une reprise pour pouvoir faire les représentations qu'on avait prévu de faire au mois de novembre. Voilà, elles seront reportées l'année prochaine. Et puis on aura une semaine de travail en amont pour se remettre dans nos repères.
Aurélie Morin, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous avoir parlé de votre dernière création qui s'appelle « Celle qui regarde le monde ». Merci.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Également, au revoir.
Ah, une petite chose, le site internet, il faut taper
www.letheatredenuit.org.